France Culture.
Voix off. Hervé Guibert, sur carton noir.
Tous les dimanches depuis l'enfance, j'allais déjeuner chez mes grand-tantes, Suzanne et Louise.
C'est toi qu'il faut que je regarde le coup.
C'est la caméra.
La caméra, bon.
Alors Louise.
Le rouge.
Louise.
Oui.
On a
pas tellement d'âge différence.
50 ans de différence.
Oh, qu'est-ce que c'est que 50 ans?
Oui, c'est pas énorme.
À l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe.
Oui.
Intention. Suzanne et Louise seraient un film naturaliste, le corps, les animaux, un film de sorcière, un concentré de mort, enfin et surtout un projet d'amour.
Excusez-moi monsieur, je fais un reportage sur deux vieilles tantes qui ont habité là et... Sur Suzanne Paris et Louise Jacquet qui ont habité dans l'immeuble. Et je me demandais à quoi ça ressemblait.
Non, j'habitais dans le 20e.
Ah oui, d'accord. Est-ce que je peux monter et vous demander ça parce qu'on va pas vous entendre? Merci beaucoup.
Tu es contente, Suzanne, de voir ton petit chou?
Ah oui.
Oui?
Je sais pas, à peu près longtemps.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Personnage, Suzanne, 80 ans, vit au premier étage. Louise, sa sœur, vit au deuxième étage avec Whisky, un gros berger allemand. Ces deux rôles pourront être tenus par deux jeunes actrices.
Alors, qu'est-ce qu'on lit? Vous voulez lire Suzanne ou Louise? On va lire. De toute façon, je ne crois pas qu'il faut que je parte à 8h parce que je regarde. Vous avez une préférence?
Non. Non. Vous, c'est plutôt à vous, parce que c'est même vous, si j'ose dire, le personnage principal.
Qu'est-ce qu'on avait dit l'autre jour?
Donc là, Lonsdale fait Suzanne.
On a fait pas de...
Et Michel Foucault fait Louise.
Alors, un hôtel particulier, Suzanne, 80 ans, vit au premier étage. Louise,
et donc, moi, je fais Hervé Guibert, et j'ai 25 ans.
Avec Whisky.
Ah oui, super, merci beaucoup. Je m'appelle Lou.
D'accord.
Enchantée, je travaille à France Culture. Je fais une enquête sur deux femmes qui sont les grandes tantes d'un écrivain connu qui s'appelle Hervé Guibert. Peut-être que vous le connaissez.
Non.
Et en fait, il les a beaucoup prises en photo dans l'immeuble, dans leur appartement. Elles habitaient là depuis les années 30.
Je sais qu'à l'origine, il y avait une pharmacienne ou deux pharmaciennes. Donc la pharmacie, elle existe toujours, mais elle est sur la rue de Vaugirard. Et la copropriété comprend le bâtiment qui est sur la rue de Vaugirard et qui est resté dans son jus. Puis ce bâtiment qui, lui, a été construit sur un emplacement qui devait leur appartenir, sûrement.
Donc côté Vaugirard, c'est le bâtiment d'époque.
Oui, tout à fait. Je peux vous le montrer si vous voulez.
Ah oui, je veux bien.
Alors vous montez par ici. La porte arrière de la pharmacie.
Nous conservons aux archives de Paris un dépôt de permis de construire déposé par André en 1929.
Ah oui, donc là c'est André Paris, le mari de Suzanne.
Je vais vous montrer les plans qui sont annexés à ce permis. Donc là il s'agit du plan du rez-de-chaussée. Donc on voit en bas du plan la rue de Vaugirard. On a une mention de caisse, donc ça doit être la caisse de la pharmacie. Et puis derrière, un bureau, un local destiné aux produits chimiques et aux eaux minérales. Donc évidemment, on est dans une pharmacie, un local nommé laboratoire, une réception, des toilettes et une laverie. Et puis derrière, à l'arrière, derrière le bâtiment, vous avez un jardin.
Ah, et donc le jardin n'est plus un jardin. Enfin, si, en fait.
C'est une cour. Enfin, bon.
Et tout au fond de la parcelle, vous avez un garage existant et une entrée existante donnant sur la rue qui est derrière la rue de Vaugirard, donc qui est la rue François Villon.
Oui, donc en fait, cet immeuble, il n'existait pas du tout.
Non, à ma connaissance, non, pas du tout. En tout cas, la pharmacie allait... jusqu'à cette rue.
Ah, donc c'est étonnant, parce que moi j'étais sûre que leur immeuble avait été démoli, et je découvre que non, parce qu'en fait, ces appartements-là, ils sont assez vieillots, et moi j'ai l'impression qu'ils étaient déjà là dans les années 80-90.
Ceux-là, oui, sans aucun doute. Ceux-là doivent dater de la fin du 19e, ou quelque chose comme ça, je suppose.
Merci beaucoup.
Suzanne et Louise, reconstitution. Une expérience de Lou Quevauvillé et Nathalie Salle.
Merci encore, bon dimanche.
Allez, vous aussi.
Au revoir.
Bonne enquête, bon courage.
Merci.
Allô ?
Allô, Lou ?
Oui ?
Oui, bonjour. Vous ne me connaissez pas. J'ai appris que vous faisiez une enquête sur Suzanne et Louise. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est tout à fait ça. Mais comment vous êtes au courant ?
Bon, ça n'a pas d'importance. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je sais beaucoup de choses sur la vie de Suzanne et Louise. Que je suis prête à vous les confier. Je les ai tellement adorées, ces deux femmes.
Et est-ce que je pourrais vous enregistrer ?
Bah, tout à fait. Mais en changeant ma voix, si vous voulez bien.
Oui, d'accord. Faisons ça à très vite.
À très vite.
Prologue. Louise et Suzanne, deux vieilles femmes, seules, recluses, deux sœurs. Petites, grises et courbées, pour celui qui les croise dans la rue, banales. Deux femmes qui vivent depuis plus de 40 ans dans un hôtel particulier du 15e arrondissement. Un jardin touffu en été, misérable en hiver. Clôturé par une lourde porte de métal noir. Deux femmes gardées par un chien, un gros berger allemand, Whisky. Un chien qu'on a acheté pour garder l'argent de ces deux femmes, un chien de garde. Ce pourrait être un lieu pour le crime, mais tout ne se jouera qu'en simulacre. C'est Suzanne, la plus âgée, qui a l'argent. Louise, sa sœur, l'ancienne carmélite, lui sert de bonne. Humble et tyrannique. Suzanne débite le récit de la mesquinerie, du souvenir, de la souffrance. Elle dit « je n'ai jamais aimé que moi ». Elle dit aussi qu'elle n'a jamais pleuré. Et jamais su sourire, qu'elle n'a jamais dansé. Louise débite l'ivresse, l'assaise, la mort. Depuis la vente de la pharmacie, personne ne vient plus les voir, sauf leur petit-neveu. Lorsqu'elles sont seules, elles ne se parlent pas.
Donc voilà, chaque magasin est fermé. Il y a quand même des consignes de sécurité assez élevées tout le temps. C'est vrai que bon, on nous confie un patrimoine et on a cette responsabilité de le tenir en sécurité tout le temps.
Alors, est-ce qu'on sait combien il y a de documents d'archives dans le fonds Hervé Guibert ?
Oui, ça. L'inventaire a été complètement achevé. Nous avons choisi. Là, j'exagère un petit peu.
Vous avez de sortir du fond toutes les choses en rapport avec Suzanne et Louise.
Je fais une proposition. Ouais. On commence par tous les documents d'écriture et on a après la correspondance entre Hervé Guibert et puis Suzanne et Louise. Donc là, c'est les chemises qui concernent la correspondance. Ça, c'est l'écriture du roman photo. Donc on a les dialogues aussi de Suzanne et Louise, le scénario, donc là on est plutôt du côté du film. Donc les lettres. Et puis un document qui sont des notes sur Louise Jacquet et autres notes. Là, je trouve que c'est typiquement les documents un peu inattendus.
Alors, roman photo, tapuscrit et manuscrit de la pose et les scénarios, projet couverture, carton expo. Ça, c'est assez intéressant. Ce document-là, c'est le manuscrit de Suzanne et Louise, roman photo, qu'il a envoyé en 1980 à Jean-Luc Hennig, qui était son éditeur.
Oui, ça ressemble à une maquette de couverture, oui. Là. Hein. On voit bien les deux photographies qui étaient disposées au départ.
Tout est respecté, en fait.
Oui.
C'était vraiment un livre clé en main. Tout est là, déjà. L'éditeur n'a pas retouché. Ça doit être là, 96, la chambre noire, laboratoire, fond de cour.
Ce livre m'avait stupéfié, je dois dire, quand je l'ai ouvert à l'époque. Et aussi le parti pris de l'écriture manuelle, que tout le texte soit écrit à la main, comme pour se tenir au plus près du corps, enfin je veux dire... C'est une chose qui ne refera plus jamais, ça, et qui n'a fait que dans ce livre.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Lou.
Vous allez bien ?
Ouais, ça va, merci.
Est-ce que c'est ici que vous avez tiré pour la première fois les photos d'Hervé Guibert ?
Oui, tout à fait. C'est il n'y a pas si longtemps que ça. C'est il y a 3-4 ans, hein, Christine, je crois. Voilà. Puisqu'avant ça, je crois que Christine n'avait pas confié de tirage à réaliser à d'autres tireurs. Et oui, donc ça fait 3 ans. Pour compléter, en fin de compte, des séries de photographies qui manquaient à Christine pour des expositions. Voilà.
Alors, je suis donc Christine Guibert. J'ai rencontré Hervé Guibert en 1976. Nous étions donc bien jeunes à l'époque. J'étais depuis 3 ans avec Thierry, les lecteurs de... Hervé doivent le connaître sous l'initiale T ou Jules. Et on a commencé une longue amitié qui s'est arrêtée donc à la mort d'Hervé en 91 et ensuite à la mort de Thierry en 92, 6 mois après. Nous nous sommes mariés, Hervé et moi, en 1989. Hervé était bien sûr déjà bien malade et avait choisi effectivement... de se marier avec moi pour nous protéger et pour éviter aussi que sa famille puisse avoir un regard sur son œuvre. C'était sa grande angoisse. Dans un premier temps, c'était pas ma priorité, puisque ma priorité, c'était de survivre. Et ensuite, petit à petit, grâce au soutien d'Agathe Gaillard, qui était la galeriste d'Hervé, je suis rentrée dans l'œuvre d'Hervé. L'œuvre littéraire, c'était plus facile, hein, parce qu'il avait tout bien organisé. Et quant à l'œuvre photographique, c'est très limité, puisqu'il a photographié à peu près 15 ans. Et il y a à peu près 500 photos au grand max. Et voilà. Et plus je les regarde, et plus je les aime. Donc je suis très contente là d'assister au tirage de photos de Suzanne et Louis, ces deux grands personnages que sont ses grands-tantes et qui ont parsemé son œuvre écrite et aussi son œuvre photographique et aussi sa vidéo La pudeur ou l'impudeur.
Voilà. Alors par contre j'ai pas encore choisi laquelle Christine j'allais tirer. Tu m'as laissé donc 3 planches de contact. Bon, la très grande chance que j'ai et que là, du coup, vous avez, c'est de pouvoir avoir les planches de contact.
Mmh.
Hein, voilà, ça, c'est le... Les tireurs sont dans le secret pour ça.
Est-ce qu'on pourrait choisir une photo où elles sont là toutes les
Alors,
deux
Celle-ci. Celle-ci, où elles sont toutes les deux dans la glace.
Oui. Même sur les photos où elles sont toutes les deux, c'est comme si elles n'avaient pas conscience de la présence de l'autre.
Elle est belle celle-ci.
Elle est belle
hein.
Celle-ci, oui, je suis d'accord.
Là, je suis en train de caler mon agrandisseur. Je m'aperçois que je n'ai pas la boîte à lumière. Et la bonne, donc je vais la changer et la remplacer. C'est très simple, un agrandisseur. On a l'impression que c'est une machine un peu infernale, mais c'est finalement ni plus ni moins qu'un appareil de photographie. Retourner, c'est un projecteur. Voilà. Il y a 2 lampes, il faut qu'elles soient bien, que la lumière soit bien répartie sur la surface du négatif. Il y a ce qu'on appelle un passe-vue dans lequel on va mettre le négatif. Voilà, on projette le négatif sur la feuille de papier.
Intérieur jour, 2e étage, dans le salon. Tandis que Suzanne se relève du canapé et que Louise se rassied, on voit Hervé de dos, installé sur son appareil photo posé sur pied, un déclencheur automatique. Puis il se dépêche d'aller prendre place entre Suzanne et Louise pour poser. C'est la caméra qui les photographie. pendant toute la durée de la pause, tandis qu'ils fixent tous les trois l'objectif. On entend le bruit de ressort du déclencheur jusqu'au déclic final.
C'est le premier essai de la journée. Là, le bain d'arrêt, la deuxième étape, c'est juste de l'eau avec de l'acide. Ça permet d'arrêter le processus de développement. Voilà. Et après, le fixateur hyposulfite de soude, inventé depuis 150 ans maintenant par cet homme qui s'appelait Herschel, qui a inventé la planète Uranus. Et l'hyposulfite de soude, donc permettant à l'image fixée de se conserver.
Autour de la lumière dans le labo.
Voilà. C'est pas mal, hein, il y a des bonnes valeurs absolument partout. Alors, je la regarde souvent comme ça, voilà, une fois sec, j'aurai ça. Les valeurs de gris sont très belles, je trouve.
Et voilà, elles sont dans leur salle de bain. Suzanne fixe un petit peu le miroir, alors que Louise semble un petit peu rêveuse.
Le miroir, c'est qu'il est très entamé, il est très vieux, c'est ça ?
Il est certainement très abîmé.
Ouais, oui, c'est ça.
L'hôtel particulier où elles habitaient était quand même assez vétuste. Hein.
Oui, ça a l'air très, très ancien. Quoi, hein.
On voit dans d'autres photos les interrupteurs là, en porcelaine, avec les fils en coton. Enfin.
Générique, lettres blanches sur carton noir. 1. Intérieur jour, 3e étage, dans l'entrée. Les portraits de Suzanne et Louise, jeunes, sont posés dans leur cadre au-dessus du radiateur.
Alors, elles sont posées sur quelque chose sur le radiateur. Je pense que ça ressemble à des dessous de plat pour mettre les casseroles. Donc, je suppose que c'est pour protéger les cadres. Et en fait, ces deux cadres, il y en a un qui est mieux éclairé que l'autre. Je suppose qu'il y avait une fenêtre sur la droite. Et ces deux cadres comportent chacun plusieurs photographies. On distingue une photo posé en studio d'un portrait de deux personnes, un portrait d'une personne seule, peut-être une photo de mariage ou des photos de couple. Donc on est tout de suite dans l'univers de la famille.
Et ma première idée il y a 6 ans avait été de faire un film sur elle. Mais leur refus avait été si catégorique, bon, parce qu'elles sont très âgées, elles ont 85 ans et 75 ans. Bon, elles s'imaginaient bien ce que voulait dire, ce que ça représentait d'apporter une équipe de cinéma à l'intérieur de ce monde qui est quand même un monde très très fermé. Donc le refus a été si catégorique que ça, j'ai commencé à écrire un scénario et ça a sapé toute mon envie de le poursuivre. Donc à ce moment-là, je me suis mis à les photographier un peu régulièrement chaque dimanche, mais en entassant les planches contact sans faire tirer les photos, c'est-à-dire en me disant, bon, le film, je le ferai avec des actrices qui joueront leur rôle dans leur décor, avec leur robe, avec leurs ustensiles. Et les photos, en fait, seront comme des traces à l'intérieur de cadres, comme des preuves de leur existence plus tard.
La pièce. Un dimanche, Suzanne me dit, en cachette de Louise, cette pièce que tu as écrite sur nous, j'aimerais quand même bien la lire. Elle me demande de lui en apporter un exemplaire le dimanche suivant, en la cachant sous ma veste quand Louise viendrait m'ouvrir, car elle pense que Louise ne l'apprécierait pas. Quand je lui remets l'ensemble de photocopies brochées, elle le dissimule aussitôt, sans même le regarder, dans un tiroir de son bureau, en me disant « si je meurs d'ici là ». Suzanne ne me téléphone jamais, par souci d'économie peut-être, ou par peur de me déranger. C'est toujours moi qui l'appelle. Mais dès le mardi soir de cette semaine, sitôt Louise partie à la messe, Suzanne me téléphone et sa voix est à la fois tremblante et décidée. Mon cœur n'a fait qu'un tour, j'ai déjà essayé de t'appeler hier soir, tu n'étais pas chez toi. Alors voilà, ça ne va peut-être pas te faire plaisir, mais il va falloir que tu changes un certain nombre de choses. D'abord, nous ne nous appelons pas Louise et Suzanne, nous nous appelons Hortense et Patricia. Nous n'habitons pas un hôtel particulier dans le 15e arrondissement. Nous habitons un appartement dans un immeuble moderne du côté du Jardin des Plantes. Nous n'avons pas été pharmaciennes, nous sommes d'anciennes quincaillères. Change aussi le nom du chien, Whisky. C'est trop particulier, on pourrait le reconnaître. Appelle-le Sardanapale, par exemple.
Comment ? Est-ce que je peux poser une question ?
Une, oui, mais parce que là, je reviens de... Je vais vous expliquer. J'appartiens à l'ordre du Carmel. J'appartiens au Carmel séculier. Et je reviens d'avoir jeûné de Carmel et je suis assez fatiguée. Donc,
Et oui. Je travaille justement sur une ancienne carmélite, donc c'est drôle qu'on se croise. Et elle venait à la messe tous les dimanches à 18h30. Et donc je voulais savoir si vous étiez habituée à venir dans cette église.
Oui, je suis choriste dans cette église.
Et vous êtes là depuis quand ?
Alors, je suis dans l'église depuis plus de 40 ans.
Est-ce que cette personne vous dit quelque chose ?
Cette personne-là, oui, non.
Elle était au Carmel de Frileuse.
Ah ben oui, alors je suis allée au Carmel de Frileuse, donc elle était carmélite.
Elle était carmélite.
Mais elle avait la possibilité de sortir. Alors.
Oui, ah, en oui, fait, c'était... elle assurait le contact avec l'extérieur. Elle...
Ah oui, voilà, c'était son rôle, c'était sa fonction, c'est pour ça.
Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui aurait pu connaître Louise dans cette église ? Est-ce que si je viens à la messe tout à l'heure, par exemple, et que je montre sa photo, je peux avoir une chance de rencontrer des gens qui l'auraient aperçue ?
Alors, ce qu'il faudrait faire en toute simplicité, vous priez avant. Quand vous allez arriver, mais oui, carrément, moi j'ai prié pour vous, hein, pour que ça marche. Vous arrivez un petit peu avant que la messe commence et vous leur demandez s'ils peuvent répondre à vos questions. Et osez. Et moi, je vais faire mon petit tour en priant pour vous ayez un exaucement ce soir.
Allô, le Carmel de Frileuse ?
Oui, bonjour madame. Je vous appelle parce que je fais un documentaire sur une ancienne carmélite qui serait passée par le Carmel de Frileuse, qui s'appelle Louise Jacquet et qui aurait quitté le Carmel en 1945. Et je me demandais si vous aviez des archives la concernant.
Oh là là.
Elle serait rentrée au Carmel en 1936.
Ah oui, en 1936, donc, elle peut pas être rentrée à Frileuse. Frileuse
non,
pas,
non, à Clamart.
Au Plessis-Robinson, non ?
Au Plessis-Robinson, exactement.
Ah oui, ben alors là, il n'y a plus une seule sœur vivante qui pourrait s'en souvenir. Hein.
Non, mais est-ce qu'il y aurait par exemple des photos ?
Écoutez, là, ça me paraît vraiment très problématique. Et de toute façon, moi, je ne peux pas vous répondre.
Merci beaucoup pour votre aide.
Je vous en prie.
Au revoir.
Alors, si vous ne disposez pas de l'année de naissance, il y a une petite astuce à utiliser. C'est le site de l'INSEE qui s'appelle matchid.fr, qui permet pour les personnes décédées après 1970, éventuellement, de retrouver la date de naissance et le lieu de naissance. On va déjà faire cette démarche. Tac, je l'ai. Ah oui, et là je tape Suzanne Paris. Et là il y en a des dizaines et des dizaines. Mais nous on a sa date de mort, donc on peut dire qu'elle est décédée en 1991 à l'âge de 95 ans. C'était à Paris. Jacquet Suzanne Marie, née le 8 septembre 1895 à Reims et décédée le 16 janvier 91 dans le 10e arrondissement de Paris. Oui, donc on dispose de ça. Et si je fais la même recherche pour Louise ? Et là... Jacquet-Louise Léontine, née le 10 juillet 1905 à Reims et décédée le 18 septembre 1996 à 91 ans à Étampes, donc en région parisienne.
Intérieur jour, troisième étage, le palier. Suzanne monte l'escalier, péniblement, marche par marche, pour monter au troisième étage, plongée. La durée de cet âge-là, de ce ralentissement.
Donc vous nous montrez
fait un cahier bleu qui est comme un cahier de brouillon à petits carreaux. Et quand on ouvre la première page, il y a écrit Louise Jacquet, donc le nom de sa grand-tante. Et il écrit Louise Jacquet,
Louise Jacquet est vivante.
Elle existe, c'est ma grand-tante.
Elle existe, c'est ma grand-tante. Elle a 60 ans environ. Le titre du film porte son nom, elle en est le personnage principal et presque unique. C'est de sa vie qu'il s'agit. Ce n'est pas un film sur le troisième âge. Ce n'est pas un documentaire sur la vieillesse. Il n'y a pas de niaiserie, ni la souffrance, ni la lente anesthésie qu'offre la mort. Il n'y a aucun pittoresque. Pourtant, la mort est là, secrète, puissante, magnifique. Le film est basé sur la réalité, mais il s'en échappe, il devient fantasmagorie, poétique, rêve bizarre. Le film se passe presque uniquement dans un huis clos, le lieu où habite Louise Jacquet, un hôtel particulier dans le 15e arrondissement. Ce n'est pas un hôtel particulier comme on l'imagine, c'est-à-dire le luxe y est absent. Le jardin est petit et mal entretenu, les végétations sont sans ordre, les fientes de pigeons sur les marches de l'escalier n'ont pas été nettoyées depuis longtemps. C'est plutôt une maison de trois étages donnant sur un jardin petit et incohérent. Je ne filmerai pas Louise Jacquet comme une vieille femme. Je la vois poétique, transfigurée. Je la filmerai comme une petite fille. La vie de Louise Jacquet, sous un calme apparent et conformiste, on peut même dire religieux, est pleine de passion, brûlure du cœur, incendie de l'âme, et pleine aussi de folie.
Et ensuite, c'est barré, mais on voit Louise Jacquet est fille de paysan. Petite, elle allait au champ avec ses sœurs.
Vous m'avez indiqué qu'Hervé Guibert allait visiter ses tantes au 315 rue de Vaugirard. Donc je me suis dit, je vais regarder le recensement de 1931 à cette adresse. Regardez ce que j'ai trouvé dans le recensement. Tiens donc, j'observe qu'une certaine Suzanne Jacquet, née en 1895 dans la Marne, célibataire, chef de famille, dont la profession est musicienne, habitée au 315 rue de Vaugirard, et qu'également un certain André Paris, né en 1893 dans les Ardennes, divorcé, chef de famille, pharmacien, figure aussi à cette adresse. Mais ils ne font pas partie du même foyer, puisque les deux se sont mis en chef de famille. Donc plusieurs personnes, il y a d'autres personnes qui habitent dans cet immeuble.
Donc on peut imaginer qu'ils se sont rencontrés dans l'immeuble, que Suzanne a joué de la musique et que, par exemple, André l'a entendu. Allô ?
Allô, Lou ?
Ah, c'est vous. Bah merci de me rappeler. Je vous enregistre alors.
Oui, je veux bien.
Voilà, ça marche. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la vie de Suzanne, notamment sa jeunesse ? C'est ça qui m'intéresse.
Ce que je peux vous dire, c'est que Suzy n'aurait jamais dû être pharmacienne. Elle était très littéraire, mais vous savez, les hasards de la vie.
Ah oui, effectivement, j'ai découvert qu'elle était musicienne.
Oui, en fait, grâce à l'aide d'un employeur de sa mère, c'est la dame de sa famille à avoir pu passer son baccalauréat et à faire le conservatoire de violon. Mmh. Elle a été jeune fille au pair aussi en Angleterre. C'était assez inespéré à l'époque pour une jeune fille issue d'un milieu si modeste. Et ensuite, quand elle a quitté Reims, elle est partie à Nantes au moment de la guerre de 14. Elle était partie pour être institutrice. Elle rigolait pas hein, d'avoir Suzy comme professeur, je peux vous le dire. Et ensuite, elle s'ennuyait et elle a arrêté d'enseigner pour donner des cours de violon le soir. Et puis, elle était tellement passionnée qu'elle allait jouer dans un orchestre, dans des grands orchestres à Nantes. Et ensuite, elle est allée s'installer à Paris.
Ah oui, donc c'est à ce moment-là que Suzanne et André se rencontrent ? C'est parce qu'ils habitent dans le même immeuble ?
Alors, absolument pas. Quand elle est arrivée à Paris,
Elle a joué dans des petits ensembles de musique de chambre et elle jouait dans des grandes réceptions, dans des soirées mondaines. Et un jour, la femme d'André, qui était une pharmacienne très fortunée, l'appelle pour jouer dans un des dîners qu'elle organise. Et André était l'époux de cette pharmacienne. Et c'est lorsqu'il a vu Suzanne jouer du violon dans sa robe de soirée qu'il est tombé amoureux d'elle.
Ah, et donc la pharmacie, en fait, elle appartenait pas à André, mais à sa première femme.
Ah oui, tout à fait. Donc André a dû vraiment beaucoup travailler pour racheter petit à petit la pharmacie et l'immeuble.
Mais alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi Suzanne, elle arrête à un moment le violon, alors qu'elle avait l'air d'être passionnée.
Ça, c'est un grand drame. Mais appelez-moi plus tard, je n'ai plus le temps.
Extérieur jour, la rue. Hervé de profil, un paquet de gâteaux à la main. Marche en direction de la maison de ses grand-tantes. Travelling. Extérieur, jour, la rue. Hervé s'arrête enfin devant la lourde porte de métal noir de la maison de ses grand-tantes. Extérieur, jour, la rue. Les mains d'Hervé sonnent trois coups répétés sur les deux boutons qui portent les noms de Suzanne et de Louise.
Merci. Je pense que tu peux couper là et on va te prendre avec, avec Nathalie.
Tu tiens la porte juste ?
On va te prendre une affaire.
Extérieur jour, la rue. Louise, en serrant sur sa poitrine son paletot noir, descend l'escalier du jardin. On la suit à travers la grille pour ouvrir à Hervé. Elle chantonne ou elle parle au merle, mais on ne l'entend pas.
Pour rentrer tous les trois, sinon moi je peux monter à pied. Hein.
Ah, allez.
Intérieur jour, troisième étage, le palier. La porte de l'appartement de Louise s'ouvre toute seule. Et il sort le gros berger allemand qui dévale l'escalier. Une fois qu'il a dépassé la caméra, sur le champ vide, on entend le claquement d'un fouet.
Son désir le plus cher au départ, c'était vraiment de faire du cinéma. Bon, je pense qu'il était plus fondamentalement un écrivain, puisque c'est ce qu'il est devenu. Donc, moi, quand j'ai découvert le livre, j'ai eu envie d'écrire pour essayer d'éclairer un peu ce livre paradoxal qui se présente comme un livre documentaire, mais avec constamment des échappées de fiction. Les rapports qu'il a avec elle sont tellement improbables et les histoires qu'il raconte sont tellement incroyables qu'on ne sait jamais si c'est vrai ou pas vrai. Enfin, je veux dire, c'est ça qui fait toute la force du livre. Mais nulle part, à ma connaissance, il ne s'est expliqué pourquoi il était aussi vivement, violemment attaché à ces deux vieilles dames. C'était au point qu'il allait quand même tous les dimanches déjeuner avec elle. Pour un jeune homme de 20 ans, enfin, ça paraît assez stratosphérique, enfin, je veux dire. Nulle part il ne s'en explique. Et je ne lui ai même pas posé la question. Enfin, je veux dire, c'est une question qu'on n'osait pas poser d'une certaine façon. Mais ça a été suffisamment important pour qu'il fasse ce livre, qui est très singulier, hein, je veux dire, dans son organisation même. Et que d'autre part, Suzanne et Louise sont présentes dans beaucoup d'autres de ses livres, entre autres dans Les Gangsters, qui est une fiction vraie à nouveau, on ne sait pas bien comment, jusqu'au bout.
Alors ça, c'est des lettres. Ouvrons d'abord peut-être les lettres d'Hervé Guibert à Suzanne et à Louise. Petite enveloppe rose pour Suzanne et Louise. Là, on imagine qu'il a déposé directement dans la boîte aux lettres parce qu'il n'y a pas d'adresse.
Chère Suzanne, chère Louise, puisque Suzanne m'a dit hier au téléphone que le ratage des précédentes photos était peut-être dû au manque d'explication de ma part. Voici les photos que j'aimerais faire avec vous dimanche après le déjeuner. D'abord, des photos plus simples que les précédentes, sans grande mise en scène. Un peu de préparation tout de même. J'aimerais de nouveau que Louise ait sa robe bleu foncé, ses cheveux dénatés et ses chaussures noires d'osier tressé. J'aimerais utiliser l'espace de la salle à manger au deuxième, dans laquelle je n'ai encore jamais pris de photo. Peut-être toutes les deux assises faisant semblant de jouer aux cartes. Et aussi l'espace de l'intérieur à l'extérieur, puis à nouveau à l'intérieur, entre la fenêtre du troisième et la petite fenêtre de la salle de bain au deuxième. L'idée serait que je surprenne la toilette de Suzanne, que Louise, par exemple, la peigne. Ce serait donc bien que Suzanne ait cette chemise de nuit blanche que j'aime tant, ou un vêtement de toilette plus simple, tout en restant décent, bien sûr, comme une gaine. Le plan étant éloigné, on ne verra de toute façon pas grand-chose. La pudeur de Suzanne restera intouchée. J'aimerais aussi, une autre fois, photographier Louise avec une petite souris capturée dans le piège. Il faudrait pour cela ne pas jeter la première souris qui se laissera prendre. Voilà mes idées, qui ne devraient pas vous sembler trop étranges et que j'aimerais réaliser avec vous. En attendant dimanche, je vous embrasse toutes les deux, très fort. Hervé.
J'ai travaillé comme ça pendant 6 mois avec elle, et après, quand je rentrais le dimanche après-midi, pour doubler les photos, j'écrivais comme ça dans mon journal des notes, mais sans penser que je les utiliserais plus tard. J'écrivais un peu leur réaction à ce travail de la photo. Et puis quand tout ça a pris une forme à un moment, et dans l'idée du roman photo, donc j'ai réutilisé des textes qui étaient dans le journal, quoi.
On sait par ailleurs qu'elles étaient apparemment relativement riches avant qu'on leur subtilise si c'est vrai ou pas dans les gangsters le plus clair de leur argent. Deux vieilles dames, hein, elles ont 85 et 75 ans, qui sont unies par des rapports qu'on a du mal à comprendre, parce qu'elles sont sœurs, mais il y en a une qui apparemment est vraiment une maîtresse femme et l'autre qui est un peu comme une servante. C'est très énigmatique, ça, déjà, je veux dire. Qu'elles vivent dans la même maison, à deux étages différents. Et que Suzanne est un peu, pas infirme, mais quand même en pas très bonne condition physique. Et Louise fait tout. Elle fait la cuisine, elle fait les courses, elle... Oui, elle est la bonne, quoi, je veux dire, d'une certaine façon. Et de ça, Guibert s'étonne jamais. Enfin, je veux dire, c'est une donne de base, c'est comme ça. Louise, qui est un peu plus jeune, qui a ses immenses cheveux, qu'elle ne s'est jamais fait couper depuis qu'elle a quitté le Carmel, puisqu'elle a quand même vécu 15 ans, 10 ans, je crois, au Carmel. C'est une existence totalement improbable. Enfin, on se demande pourquoi elle y est entrée, pourquoi elle en est sortie. Rien n'est dit de ça.
On cherche. Voilà, j'ai l'impression que ça marche. Bonjour Yann.
Bonjour.
Et donc, sœur Louise du Sacré-Cœur, qui s'appelle... Enfin, ça c'est son nom de sœur, mais c'est Louise Jacquet.
Attendez, je crois que j'ai sa date. Elle est entrée le 13 septembre 1936 à Nogent-sur-Marne. Et en fait, quand on a décidé de fonder le Plessis Robinson avec un groupe de 22 sœurs, parce que le Carmel de Nogent-sur-Marne tournait vraiment bien, elle a été choisie comme sœur tourière pour être envoyée dans la nouvelle fondation du Plessis Robinson.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'une sœur tourière ?
Dans un monastère, vous avez différentes catégories de sœurs. C'est qu'on avait ce qu'on appelait les sœurs tourières, qui étaient donc des religieuses en fait, qui vivaient à l'extérieur de la clôture et donc qui en fait faisaient tout le service extérieur du monastère, l'accueil des visiteurs, les courses, l'entretien des parties extérieures, qui faisaient le lien en fait entre l'extérieur et le monastère, parce que les sœurs ne sortaient jamais. D'ailleurs, pour l'anecdote, si on a peu de choses sur ce qui a été le parcours de sœur Louise, à l'inverse, le 29 août 39, en vue de la déclaration de guerre, le supérieur avait demandé à la communauté de partir, et c'est sœur Louise qui avait accompagné toute la communauté jusqu'à la gare de Montparnasse, et qui ensuite était revenue au Plessis pour retrouver sa prieure qui gardait les bâtiments, le temps de prendre des dispositions pour mettre tout le monde à l'abri.
Ah ouais, c'est incroyable!
Le Carmel, 4. Quand je suis entrée au Carmel, je suis morte au monde. Je me suis dessaisie de mon nom. Je ne me suis plus appelée Louise J, mais Sœur Louise du Sacré-Cœur. Je me suis dessaisie de ma voix. On fait vœu de silence. Et on a un code pour parler avec les mains, pour demander le pain au réfectoire. On fait ce geste-là. On m'a tondu. J'ai fait le sacrifice de mon corps, de tous mes membres. Je ne m'appartenais plus. Ni moi, ni mes membres, ils appartenaient à Dieu, à la communauté, au Carmel. Je n'avais pas le droit de dire « mon corps, mes mains » ou « ma bouche », je devais dire « notre corps, nos mains, notre bouche ». Je ne devais pas dire « j'ai mal au ventre ». Pas le droit de prononcer le mot « ventre », on disait « j'ai les intestins malades ». Même pas « mes intestins ». Je me suis dessaisi de mon image, pas de miroir au Carmel. Et même pas le droit de surprendre son reflet dans une vitre ou dans l'eau de la cuvette pendant la toilette du matin. Pendant 8 ans, je ne me suis pas vu. Mais je ne regrette rien. Quand j'y repense, ces 8 années ont été les plus belles de ma vie.
Comment vous avez trouvé toutes ces dates ?
Grâce aux archives du monastère, plus précisément les cahiers de profession des sœurs Tourières. Et le livre d'or des 22 sœurs fondatrices du monastère. Et donc son nom apparaissait dedans avec date de naissance, date de baptême, date de d'entrée, profession. Et quand elle est partie le 18 janvier 45, en fait, le monastère était toujours au Plessis.
Et est-ce qu'on sait pourquoi elle est partie ?
Et là, c'est là que les archives s'arrêtent. C'est que, en fait, dans les chroniques du monastère, qui sont assez détaillées, il est simplement marqué qu'elle est partie, en fait. À l'époque, on était assez discret sur les raisons des départs, que ce soit personnel ou lié à la communauté. Peut-être que ça va trouver qu'elle n'avait plus sa place. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Ça, c'est la seule qui aurait pu y répondre, peut-être c'était elle ou sa prieure, mais comme l'une et l'autre sont mortes, malheureusement, ça s'arrête là.
Et au Carmel, on sait que les cheveux sont rasés, les cheveux des femmes étaient rasés, en tout cas dans les années 40. Je ne sais pas si ça se passe encore maintenant. Et quand elle est sortie du Carmel, bon, elle a, comme une espèce de réaction, elle a décidé de laisser pousser ses cheveux, donc elle ne les a jamais coupés depuis sa sortie du Carmel à la fin de la guerre. Elle dissimule complètement, c'est-à-dire elle en fait des longues nattes qu'elle enroule autour de sa tête. Et elle ne les montre pas à mon enfant. J'étais fasciné par, j'avais une fascination comme ça, visuelle pour cette couronne de cheveux autour de la tête. Mais j'avais jamais réussi à voir ses cheveux déployés. C'était un grand rêve de pouvoir un jour voir ses cheveux, parce que pour elle, c'est vraiment la chose la plus intime et la plus secrète. Donc pour faire les photos, pour photographier un peu tout ce rite de l'entretien de ses cheveux, il a fallu, ça a mis très longtemps. Enfin, j'ai dû le désirer peut-être 2 ans avant qu'elle accepte même que je vois ses cheveux.
Alors, j'ai regardé après, donc le dernier recensement qui est en ligne sur le site des archives de Paris, c'est celui de 1946, toujours à l'adresse du 315 rue de Vaugirard. Et là, on trouve deux familles. La première, celle constituée par André et Suzanne. Donc André qui est indiqué toujours pharmacien. Et en revanche, Suzanne, elle est indiquée directrice de pharmacie.
Allô ?
Allô, bonjour, c'est Lou. Je vous rappelle parce que vous deviez me raconter pourquoi Suzanne a arrêté le violon.
Oui, c'est vrai. En fait, un soir, André et elle rentrent d'un dîner en voiture. Et ils ont un accident, pas très grave, mais suffisant pour que Suzy lui blesse le bras droit. Et elle n'a jamais pu tendre le bras et a été contrainte d'arrêter le violon.
D'accord. Et est-ce que je peux vous rappeler si j'ai d'autres questions ? Parce que l'enquête avance, mais là, j'ai pas de questions immédiates.
Bien sûr.
Merci beaucoup, à très bientôt.
À très bientôt.
Louise.
Ne bouge pas, je prends mes photos. Non, attends.
Suzanne.
Où as-tu trouvé cet appareil ?
Dans une valise, c'est l'appareil d'André. Tu te souviens ? Je croyais l'avoir perdu.
Mais tu pourrais me demander ton avis. Allongé comme ça avec cette chemise blanche, on va croire que je suis morte. C'est macabre.
Elle veut se lever. Reste comme ça, c'est très bien. C'est une mort dessus.
Mais pourquoi veux-tu prendre des photos ?
En rangeant ce cafarnaum, je suis tombé sur cet appareil. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir un souvenir.
Est-ce qu'au moins tu as pensé à mettre de la pellicule à l'intérieur ?
Bien sûr, regarde. Je l'ai acheté ce matin en allant à la COP. Ça coûte cher maintenant, ces machins. J'ai pris la couleur. Tu sais combien ça m'a coûté ?
Non. Tu as payé ça de ta poche, j'espère. Tu n'as pas pris sur l'argent des courses ?
Ah, bien sûr, j'ai pris sur l'argent de ma poche. Je te connais, t'en aurais fait une manette.
Tu pourrais quand même faire quelque chose d'un peu plus luxueux. Je sais pas, tu pourrais me prendre mon bureau. Bien assis dans le salon. On retirerait les housses.
Donc, en 1945, pour cet immeuble au deuxième étage, le premier foyer, c'est celui des époux Paris, donc Suzanne et André, donc qui ont un appartement qui comporte trois pièces. Et enfin, au troisième étage, vous avez un appartement de quatre pièces où loge la belle-sœur, donc Louise Jacquet, ainsi que trois neveux et nièces, donc Janine, André et Michel Cotigny. Ces enfants Cotigny sont les enfants de la sœur jumelle de Louise. Est-ce que l'un ou l'une d'entre eux serait le parent, la mère ou le père d'Hervé Guibert ? Comment elle s'appelle, sa maman ? C'est quoi le prénom ? C'est Gisèle, Janine ?
J'ai un doute, mais je suis presque sûre que c'est Janine.
Bah, c'est Janine. C'est l'aînée. Tata.
Les mots me manquent. Enfin, c'est dingue ce qu'on arrive à retrouver. Donc, ce qui voudrait dire que Janine a un lien très particulier déjà avec Louise et Suzanne. Il est très proche de ses deux grand-tantes comme l'a été sa mère à l'époque, probablement.
Alors, le rapport qu'il a avec ses parents est très proche aussi. C'est à la fois une grande histoire d'amour qu'il a vécue avec ses parents et plus particulièrement avec son père. Hein, je veux dire, qu'il ait gardé une image si forte de l'enfance. C'est grâce à son père. Son rêve absolu, c'était de revenir dans cette époque un peu dorée, un peu... Bon, et par contre, à l'adolescence, c'est un rejet total. Un rejet total parce que ce sont des parents qui veulent tout contrôler, tout voir, tout interdire, etc. Mais il y a un grand amour. Par contre, Suzanne et Louise, je pense qu'il y avait plus de liberté, qu'il n'y avait pas cette contrainte qu'on peut avoir avec des parents, hein. On a des règlements de compte à donner à ses parents. Là, non, c'était en plus des personnages très romanesques. Hervé était toujours à la recherche de personnages romanesques. Et ces deux femmes, l'une sans l'autre, c'était pas possible. C'était forcément le duo, parce que c'est l'une est l'antithèse de l'autre. C'est des rapports qui sont très établis. Vous dites qu'on les voit pas se regarder, mais je pense que dans la vie aussi, chacune avait sa propre vie. Elles avaient un rapport assez à la fois. Elles étaient là l'une avec l'autre, elles vivaient l'une avec l'autre, elles cédaient l'une l'autre, mais il y avait aussi quand même une forme de distance, je dirais.
Diolos, Hervé.
Donc on a eu Chouchou, Direst Hervé, Hervé Dire, là. Ta longue lettre m'a fait tellement plaisir que je l'ai lue 5 fois. Comme tous les papiers que je reçois, je l'avale pour savoir si c'est bon ou mauvais. 2e fois, je lis pour de vrai, plus lentement. 3e fois, je relis pour comprendre, car son écriture est assez originale pour qu'on la regarde à 2 fois. 4e, je relis pour le plaisir. 5e, pour te répondre. J'ai lu Emmanuel Bourg, que tu m'avais laissé. L'un complètement crétin, l'autre un peu moins, mais je ne comprends pas ton engouement. Je pioche dans les livres de Janine, jusqu'ici rien d'emballant. Oui, j'ai lu 2 fois La Montagne Magique. J'aime Thomas Mann. Bien sûr, c'est morbide, mais pour moi, la pensée de la mort m'habite tellement depuis que je me sens si proche que j'y vois seulement le détachement que j'espère définitif d'une existence qui ne me donne aucune joie.
La musique, point d'interrogation, je l'écouterai en rentrant à Paris, bien sûr. Je connais cette symphonie de Schumann et tant d'autres aussi belles. N'oublie pas que j'ai joué dans les premiers violons, puis l'alto, très bon orchestre, dans tant de concerts à Nantes pendant la guerre de 14. C'est loin tout ça. Donc c'est à ce moment-là qu'elle évoque qu'elle a joué du violon et l'alto après.
Et après elle s'arrête, oui, elle parle d'autre chose.
Excuse mon écriture, je suis debout, penchée sur mon bureau, et ne cherche à contrôler mes doigts. Je t'embrasse très affectueusement, ta vieille noix, Suzanne.
Ah là, c'est Louise, regarde.
Ah. Cher Hervé, donc tout en bas de la lettre. Cher Hervé, je pense que Suze te dit tout ce qui se passe, qu'elle attend, souvent son café. Demain, je fais rognon épuré, les fruits sont beaux et bons, le temps beaucoup moins. Repose-toi, tout en travaillant bien. Sois prudent, bon baiser, Louise.
Oh, me parle pas du Carmel. J'en aurais à te dire, moi aussi.
Louise.
On va racheter sa poule à son souteneur, et toi, tu m'as racheté au Carmel, après 8 ans. Tu m'as fait sortir malgré moi. Tu t'es dit, autant qu'elle me serve à moi, ses mains. Tu es venu les racheter. Tu t'es dit, quitte à ce qu'elle fasse de la boniche, autant qu'elle la fasse pour nous, comme ça on reste en famille. Et qu'est-ce que tu as fait de moi, ta bonne, ta cuisinière, ton habilleuse? Une vendeuse de pharmacie. Tu m'as racheté.
Oh, tu me fais de la peine.
Suzanne.
Tu déblatais. Je sais très bien pourquoi tu es sortie du Carmel. Maman était malade, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un pour s'en occuper.
Mais il fallait surtout ne payer personne pour s'en occuper. Et moi, changer les draps où elle s'oubliait, les laver.
Ce qui est amusant, c'est que bon, pour moi, le travail là n'est pas terminé avec le livre. Parce que je me suis remis à retravailler sur l'idée du film. Et maintenant, elles l'ont accepté. En fait, je suis très content parce que le livre a servi, moi, à ce qu'elles acceptent cette idée. Pour moi, maintenant, le livre, c'est un peu le repérage du film à venir. Quoi. Mm-hmm. C'est un travail qui ne s'arrête pas et que je ne veux pas arrêter parce que c'est un peu une façon de poursuivre comme ça les chances de la mort. Et comme je les aime beaucoup, c'est un peu aussi une façon de leur redonner des, en leur donnant des propositions de travail, des motifs d'existence, je pense.
Pour toi, quels sont mes défauts? Tu dirais que j'ai quoi comme défaut? En étant tout à fait sincère.
Alors là, tu sais, hein, je ne connais pas tous. Je ne connais pas certains. Ouais. Non. Ça,
et les qualités?
Oh, bah, que tu te défends et que tu es très gentil. Que tu es très complaisant, très gentil et très généreux. Et malgré toutes les méchancetés, on peut dire que Suzy a tapé une drôle de méchanceté en me disant tout ce qu'elle a dit, qui était méchant.
Oui.
Et qu'il n'y en avait pas la moitié qui était vraie. Hein.
Ouais.
Bah, dès le début, j'ai commencé, mais tu ne voulais pas écouter, tu avais confiance en Suzy.
Ouais.
Je ne pouvais pas. Parce qu'à ce moment-là, je me dis, si j'insiste, il va croire que c'est parce que je suis jalouse qu'il soit plus souvent avec Suzy. Non, pas du tout. Seulement, je savais que Suzy disait des méchancetés.
Ouais.
Suzy a été très, très méchante.
Mmh.
Et je le lui ai dit.
Et toi, tu pries beaucoup pour moi?
Oh, bah, j'ai toujours prié pour toi.
Mais il y a une lettre qui est incroyable. Oui,
c'est celle-ci.
Mais alors, franchement, on peut la lire, mais elle est...
Elle contredit presque tout. Hein.
Ouais.
Mmh. Ah ouais, c'est vraiment la lettre complètement inattendue.
En fait, c'est une enveloppe blanche, donc c'est possible qu'il n'ait jamais envoyé cette lettre. Je la lis. Paris, le 1er février 1989.
Notre chère Suzanne peut s'estimer satisfaite et soulagée. Elle est enfin parvenue, au bout de 20 ans d'efforts, à rayer purement et simplement de la carte de ses connaissances, après tant d'autres, un personnage de plus sur le fil de sa vie. Elle a fabriqué de toutes pièces mon abandon. Comme elle a fabriqué de toutes pièces le sacrifice ambigu de Louise, la cupidité de Jeannine. Voilà pourquoi notre bonne Louise, devant tant de cruelles divisions, a cette nostalgie douloureuse de l'union. Que n'aurais-tu pas essayé, ô chère Suzanne, de nous monter les uns contre les autres? De me chuchoter que Louise te trompait et te volait depuis 40 ans alors qu'elle dévouait sa vie au service de la tienne comme une domestique aveugle. Et moi, le petit neveu, ta marionnette, qu'as-tu encore pu dire de moi à Louise, que je guignais ton héritage ou je ne sais quoi? Tu n'as été guidé toute ta vie que par un esprit de vengeance. Au lieu de chercher en toi la force morale, le courage, la générosité de guérir tes blessures, car le monde, et moi aussi je l'ai fréquenté ma chère Suzanne, n'est pas si noir que ça t'arrange de le croire. D'ailleurs, je n'ai jusque-là rencontré rien de si noir. C'est aussi cela qui me fascinait comme spécimen littéraire exceptionnel, que ce cœur, je le répète, sec et avide. J'ai d'autres soucis en ce moment pour lesquels je dois requérir toutes mes forces et concentrer sur moi l'énergie affectueuse des quelques rares amitiés au lieu de me laisser vampiriser par les caprices d'une grande tante tyrannique. Mais je reste l'ami de Louise et ses prières sont un vrai réconfort. Hervé.
La correspondance suivie,
est vraiment importante, c'est avec Suzanne. Hein. Bon, il y a quelque chose qui a été commis là, et il y a peut-être eu un événement, mais surmonté.
Mais toi, Suzanne, t'as envie de vivre ou t'as envie de mourir?
Ça dépend du moment.
On va fêter le 8 septembre ton 95e anniversaire.
Oui.
Tu te rends compte?
Oui.
T'aurais jamais pensé que tu deviendrais si vieille?
Non.
Et c'est dur d'être si vieux? Il y a quelque chose qui te ferait plaisir pour ton anniversaire?
Oui, vivre encore un peu.
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
J'ai besoin d'une dernière information. On sait que Suzanne, elle a donné son corps à la science et que Louise, elle voulait faire pareil. Finalement, elle l'a pas fait puisque j'ai vu qu'elle était enterrée à Étampes. Est-ce que vous savez à quoi ressemblait un peu la fin de sa vie?
Oui, effectivement, ça n'avait plus tellement de sens de faire ça pour elle. À la mort de Suzy en 91, elle est restée quelque temps dans l'hôtel particulier, mais elle avait peur toute seule. Et c'était un endroit un peu inquiétant. Et elle a passé les dernières années de sa vie, jusqu'en 1996, donc, dans une maison de retraite pour religieuses. On l'appelait Mademoiselle Jacquet. Et elle y était vraiment bien.
Mmh. Et finalement, on n'a jamais su pourquoi est-ce qu'elle était entrée au Carmel.
La légende familiale dit quand même qu'elle aurait eu un immense chagrin d'amour, indépassable. Mmh. Et qu'elle serait rentrée dans les ordres. Mmh.
D'accord. Eh ben, je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Merci beaucoup.
Pardonnez-moi, tout de même de la date de diffusion du documentaire. Je suis curieuse maintenant.
Oui, j'y manquerai pas. Au revoir.
Au revoir.
Intérieur jour, deuxième étage, dans la chambre de Suzanne. Montée sur une chaise, Suzanne descend d'une armoire un étui de violon. Puis on la voit assise, qui ouvre l'étui, posé sur ses genoux, et en sort le violon de sa flanelle, avec tous ses fils distendus, emmêlés. La caméra passe sur ses mains qui touchent l'instrument. Enclenchement de la musique du film, premier mouvement de la sonate de Franck, pour violon et piano.
Suzanne et Louise, reconstitution, un documentaire de Louque Vauvillier, réalisé par Nathalie Salle. Avec Dominique Juigné, Raymond Bellour, Guillaume Geneste, Pascal Butel, Yann Gourté, Rose Dur. Merci aussi à Christine Guibert et à Dominique pour leur accompagnement. Lecture, Antoine Reinhardts. Prise de son, Hervé Dubreuil et Benjamin Vignal. Documentation, Anne-Lise Signoret et Antoine Villoz. Mixage, Étienne Collin. Partenariat, IMEC. Coordination, Aurélie Charon et Inès Duperron.